Chaud devant à Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
que nous léguer Jésus dans son testament.
Je sous-signais Jésus, dit le Christ, fils de Marie et de Joseph, le menuisier, né à Bethléem, lègue toutes mes possessions, biens, héritages, argent et fortune à Pierre, Jacques, Jean, André, Thaddée, Judas. Non, pas lui.
Marc, mais qu'est-ce que tu fais ?
Je lis le testament de Jésus.
Le testament de Jésus ?
Oui, tu sais, le document qui indique ce qu'il donne à ses héritiers. Comme il n'a pas d'enfants, ses héritiers, ça doit bien être ses disciples, non ?
Oui, certainement, mais je sais pas où tu as eu ce document, mais c'est un faux.
Comment ça, c'est un faux ?
Jésus n'a jamais rien écrit, enfin, sauf dans le sable.
Ah bon ? T'en es sûr ?
Ah oui, j'en suis sûr. Mais peut-être même qu'il savait pas écrire.
Jésus ? Il savait pas écrire ? Mais qu'est-ce que tu racontes ?
À l'époque de Jésus, la plupart des gens ne savaient pas écrire parce que ça demande beaucoup de temps et d'études. Par contre, tout le monde apprenait à lire.
Ah bon, d'accord. Mais le testament de Jésus, alors c'est quoi ?
Le testament de Jésus, il n'est pas d'abord écrit sur du papier. Il est écrit dans le cœur des hommes. Le testament de Jésus, c'est l'alliance qu'il renouvelle.
Donc, on va encore parler du thème de l'alliance.
Eh oui. Nous avons vu l'alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham et avec Moïse. Et bien maintenant, nous entrons dans l'ère chrétienne. Jésus renouvelle à son tour l'alliance de ses ancêtres.
Et ça va durer longtemps ?
Éternellement.
Mais non, je veux dire, ça va durer longtemps, les histoires d'alliance ? Tous les 400 ans, il y a un nouveau prophète qui va arriver, et encore une fois, il y a une nouvelle alliance. Pourquoi tu dis qu'il faut renouveler l'alliance ? Il me semble qu'avec Moïse, on avait déjà bien précisé les choses. 10 commandements principaux, et surtout 613 commandements à suivre, ça me paraît simple et clair, précis. Exigeant, pas facile peut-être, mais clair.
Oui, bien sûr. Mais depuis Moïse jusqu'à Jésus, de nombreux prophètes vont se lever parmi les Israélites et ils vont rappeler au peuple cette alliance que Dieu a conclue avec Moïse.
Pourquoi rappeler ?
Eh bien, tu t'en doutes bien. Parce que le peuple n'en fait qu'à sa tête. Le peuple veut manger des figues. Le peuple veut faire la fête. Le peuple veut faire des sacrifices humains. Le peuple veut désobéir aux commandements. Le peuple veut son propre roi, comme les autres peuples. Bref, le peuple se laisse influencer totalement par les pratiques culturelles des autres peuples et ne suivent plus les commandements de Dieu.
Mais ça va pas, ça !
Ah non, ça va pas. Et c'est ce que vont rappeler les prophètes, notamment avec l'épreuve terrible de l'exil à Babylone. Cette épreuve était vue par le peuple comme une punition de Dieu pour avoir désobéi. C'est alors que le prophète Ézéchiel dit la chose suivante. « En effet, après vous avoir retiré du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie.
Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie.
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif.
Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites.
Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je ne vous enverrai plus de famine. Mais je ferai pousser le blé et vous donnerai des récoltes abondantes.
Je ferai produire largement les arbres fruitiers et les champs, pour que vous n'ayez plus à supporter devant les autres nations la honte d'avoir faim.
Donc, Dieu va changer le cœur du peuple ?
Oui, Dieu voit bien que c'est le cœur du peuple qui est malade. L'homme a été créé bon, mais son cœur est sujet à de nombreuses tentations. Dieu veut guérir le peuple de ses errances.
Et comment il va le faire ?
Il va envoyer un sauveur, et ce sauveur pour les chrétiens, c'est Jésus.
Yeshua !
Yeshua, c'est ça. Ça veut dire celui qui sauve.
Pourquoi Dieu envoie-t-il Jésus ?
Pour sauver son peuple. Jésus est pour Dieu le test ultime.
Le test ultime ? C'est-à-dire ?
Eh bien, Dieu a décidé d'aller jusqu'au bout de la démarche qu'il a faite avec Abraham. Tu sais ? Quand il s'est engagé entre les animaux sacrifiés.
Ah oui, je m'en souviens.
Dieu voit bien que l'homme a le cœur malade, mais il ne peut pas se résoudre à tout détruire. Tu te rappelles, il a promis à Noé qu'il ne détruirait plus l'homme.
Oui.
Il va donc introduire un programme de sauvegarde, pour employer le langage informatique. Dieu décide de faire le test ultime, c'est-à-dire que lui qui est le Créateur, le Tout-Puissant, l'inatteignable, l'infini, il va décider de se faire créature. Il va décider de s'anéantir lui-même et de se faire homme.
Oula, 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 doucement là. Tu délires là ou quoi? Dieu qui se fait homme? Dieu qui devient un homme? Et puis quoi encore? Le Créateur n'est pas la créature.
Marc, laisse-moi te raconter quelque chose. Quelques années avant l'époque de Jésus, l'empereur romain qui régnait voulut se moquer du peuple et des dévotions aux nombreux dieux romains. Il s'habilla alors avec des habits magnifiques et il demanda qu'on l'adore comme un dieu. Des juifs pratiquants, qui entendirent parler de cette drôle d'idée de l'empereur, s'exclamèrent « Un homme devenir dieu ? Dieu deviendrait plutôt un homme qu'un homme ne devienne dieu. »
Tu veux dire qu'il y avait des juifs à cette époque qui pensaient quelque part qu'il n'était pas impossible que Dieu se fasse homme ?
C'est probable. D'ailleurs, un midrash dit que lorsque Dieu vit Adam et Ève hors du paradis, il décida de faire un trou dans le ciel et de se jeter sur la terre.
Oui, mais dans le midrash, on dit que c'est la Torah que Dieu leur donne pour les consoler.
Oui, eh bien, on peut aussi le voir d'une manière chrétienne. Dieu donne la parole, et cette parole vivante, ce verbe, il s'incarne en une personne humaine, Jésus.
Bon, c'est un peu compliqué, mais admettons. Pourquoi Dieu se ferait-il homme? Après tout, s'il voulait guérir le cœur de l'homme, il pouvait très bien le faire de là-haut, non?
Dieu veut montrer à l'humanité qu'il est possible de vivre une vie toute donnée, toute offerte. Jésus, c'est la preuve de Dieu qu'il est possible de vivre selon la loi de Dieu.
Donc Jésus vient montrer à l'humanité qu'il est possible de vivre comme Dieu l'a demandé, qu'il est possible d'être totalement fidèle à l'Alliance.
C'est ça. Et la vie de Yeshua sera tellement en accord avec la vie même de Dieu qu'il sera le moyen de salut pour toute l'humanité. En donnant totalement sa vie, cette vie qu'il puise directement dans le cœur de Dieu, il sauve l'humanité. Il devient celui qui obéit parfaitement.
Donc, laisse-moi résumer. Le peuple attendait le Messie, un sauveur pour le sauver de ses problèmes et de ses difficultés. Mais alors qu'il attendait plutôt un sauveur politique pour les libérer des Romains qui les avaient envahis, Dieu avait une autre idée, les libérer de ce qui bloquait leur cœur, c'est ça?
Oui.
Dieu vient sur la terre en la personne de Jésus. Et Jésus va donner toute sa vie pour guérir l'humanité.
Au départ, Jésus venait pour le peuple élu, pour le peuple choisi par Dieu, les Juifs. C'est à lui qu'était destinée l'Alliance, et elle leur est toujours destinée. Tout comme Abraham est devenu Abraham, d'un père physique il est devenu un père spirituel pour les nations, le peuple juif était destiné à passer du statut de peuple élu, peuple fils de Dieu, au statut de peuple qui offre le salut et la guérison au monde entier.
Et d'une alliance réservée au peuple juif, le peuple de Moïse, on passe à une alliance universelle. Et en quel honneur?
En l'honneur d'une preuve d'amour de Dieu pour l'humanité. Les dons de Dieu sont gratuits, ses préférences pour une personne en particulier, pour un peuple en particulier, ne s'expliquent pas. Mais ce qu'il donne, il le donne pour qu'il soit redonné. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Tu dis que Jésus renouvelle l'Alliance, mais est-ce qu'il ne vient pas plutôt faire une synthèse percutante de la religion juive développée jusqu'alors? Il est bien l'auteur de la formule « Aime Dieu et ton prochain ».
Effectivement, Jésus affirme que le commandement le plus important de tous est d'aimer son frère, son prochain, et d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit. C'est une manière de rappeler le cœur de la religion juive. Mais Jésus ne peut pas être considéré comme un simple prophète génial qui donne sa vie pour les autres. Très clairement, ce qu'il accomplit a une puissance jusqu'alors inconnue. Il va librement accepter de souffrir sur la croix. Il va mourir.
Alors tout s'arrête là. Jésus vient dans le monde comme un prophète qui bouleverse les cœurs et renverse nos fausses images sur Dieu, et puis il meurt.
Pendant la Pâque, que fait Jésus avec ses disciples?
Eh bien, il fait ce que tout bon juif doit faire à ce moment-là. Il célèbre le passage de la mer Rouge.
Que dit l'évangile de Luc?
Luc, chapitre 22, versets 19 à 20. Et puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur en donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Oui, bon, c'est très bien, mais après, Jésus est mort, alors à quoi bon?
Après sa mort, il est ressuscité. Et c'est ça l'espérance des chrétiens. ressuscité ne veut pas dire simplement qu'il est revenu à la vie, mais qu'il détruit l'emprise de la mort, c'est-à-dire qu'il ne peut plus mourir. Comme son corps, sa chair, devient immortel, le don qu'il a fait de lui-même est également immortel.
Lorsqu'on communie, on devient immortel.
Mais oui, et d'ailleurs, tu connais ce chant.
C'était
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
Dieu a-t-il créé le monde en 6 jours ?